explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
Ah, s'il pouvait, il nous en raconterait de belles les légumes de nos potagers. La tomate nous dirait comment les Aztèques au Mexique ont commencé à la cultiver avant que les conquistadors espagnols lui fassent traverser l'océan. Le concombre se souviendrait avec émotion des contreforts himalayens où il a grandi. L'oignon aurait du mal à retenir ses larmes en évoquant sa terre d'origine, l'Asie centrale. La pomme de terre se vanterait du culte dont elle faisait l'objet sur les rives du lac Titicaca. Elle reviendrait peut-être aussi sur ce jour où elle a dû changer de nom pour être plus présentable devant le pape. Et puis la carotte, encore tout étonnée, nous expliquerait sûrement comment elle est devenue orange en passant par la Hollande. Tout cela va s'éclaircir dans la suite de cette émission. Toujours est-il que la plupart de nos légumes ont fait bien du chemin et vécu bon nombre d'aventures avant de s'enraciner dans notre sol et notre gastronomie. Des épopées que raconte l'ingénieur agronome Éric Birloez dans un livre passionnant intitulé « Petite et grande histoire des légumes » aux éditions Quae. Aujourd'hui, il nous emmène sur la piste de ces légumes auxquels les humains ont fait vivre de véritables odyssées. Et dans la dernière partie de l'émission, nous partirons pour une balade surprenante et insolite dans plusieurs grandes villes du monde avec l'auteur et vidéaste Patrick Beau. Voilà pour le programme de cette émission, réalisée par Hélène Couillou-Jean et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Julien Dumont. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est vrai, 80 francs le pied.
Nous allons approcher un peu de la légume maintenant, c'est pour le plat de résistance.
Le paquet de légumes, madame.
Le céleri est en baisse, madame, non?
Il est en baisse pour le moment.
Pour le moment, bon, alors oui. Vous êtes optimiste, ça va. Et le chou-fleur, il paraît qu'ils sont très beaux, vos chou-fleurs.
Le chou-fleur et le jardinier, très très beau. Pour moi, il est un peu cher.
Dans notre beau pays, il pousse un peu de tout. Voilà pourquoi la vie est douce, si douce un peu partout. Nous avons pour faire la popote des navets, des choux, des radis, des patates, du blé, des carottes, des pissenlits et puis aussi. Nous avons des tomates et surtout des tomates un peu partout.
Bonjour Éric Birloez.
Bonjour Daniel Fievé.
Dans notre beau pays, il pousse bien des légumes. Hein. On l'entendait, cette longue liste sur fond d'accordéon. Ils nous sont très familiers, ces légumes. Et pourtant, ils étaient encore, pour la plupart, totalement inconnus des Français il n'y a pas si longtemps.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si l'on voulait vraiment ne prendre en compte que les seuls légumes qui ont été cultivés, domestiqués sur le territoire qui deviendra la France, finalement, on n'aurait pas grand-chose dans notre assiette.
Qu'est-ce qu'on aurait dans notre assiette, alors, si on se contentait des légumes autochtones, en quelque sorte?
Oui, alors on aurait des choux, hein, puisque l'ancêtre sauvage du chou, on peut encore le voir sur les falaises, en se promenant le long des plages du littoral de l'Atlantique ou de la Manche. On aurait des bêtes et des betteraves, c'est la même espèce, même si ces deux plantes paraissent bien différentes. On aurait, alors il faut aller un peu plus loin. En Europe de l'Est, on aurait le navet, on aurait plus tard le rutabaga, croisement du chou et du navet. Oui. On aurait des carottes, mais les carottes n'ont pas vraiment été cultivées pour la première fois en Europe occidentale. Et puis, ben, on aurait l'endive qui est née, alors ça c'est moderne, puisque c'est un légume du 19e siècle, né en Belgique.
Oui,
on n'aurait pas grand-chose.
On n'aurait pas grand-chose, et puis pour les endives, ce serait sur le tard, puisqu'effectivement, ça vient de Belgique, mais au 19e siècle.
Hein, c'est ça, milieu du 19e. Pour dire deux mots des endives, en fait, on a constaté déjà un petit peu avant le 19e que lorsqu'on cultivait des racines de chicorée pour les donner à manger aux animaux, eh bien, ces racines, elles pouvaient donner naissance à un bourgeon de feuilles, et de là est venue l'idée de cultiver les racines pour produire les endives que nous connaissons aujourd'hui. Ouais.
Donc ça vient de la chicorée, c'est une façon de cultiver la chicorée, d'où le nom dans le Nord et en Belgique de chicon, quand on parle de ces endives. Grâce à vous, je sais maintenant pourquoi ma famille du côté belge parle de chicon quand on mange des endives. Alors il y a des régions du monde qui étaient particulièrement propices au développement de légumes, bien plus que la nôtre. Où est-ce que sont situés les grands berceaux de légumes dans le monde, Éric Birloez?
Alors, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est très important, auquel on pense peut-être pas spontanément, qui est bien éloigné de l'autre côté de l'Atlantique. C'est en fait le bassin, on pourrait dire le bassin légumier des Andes, hein, des Andes tropicales. C'est vraiment un hotspot, comme on dit aujourd'hui, de la biodiversité. Il y a beaucoup de légumes. Et la raison, c'est qu'en fait, on a une énorme diversité d'écosystèmes, puisqu'on va partir du niveau de la mer, les déserts côtiers comme le désert d'Atacama au nord du Chili. Donc là, évidemment, il pousse pas grand chose. Mais très vite, on va monter dans les vallées andines, on va arriver sur les hauts plateaux, on va trouver la pomme de terre, on va trouver tout un tas de légumes et de céréales, comme le quinoa. Et puis, on va redescendre du côté de la forêt amazonienne. Donc, on a une grande diversité d'écosystèmes qui ont été des conditions favorables aux cultures et à celles des légumes. Donc ça, alors, c'est un premier grand bassin. Ça.
L'Amérique latine, d'ailleurs, on y reviendra plus tard dans cette émission, parce que c'est vraiment là un berceau d'un nombre assez incroyable.
Oui, et de légumes qui auront, on le verra, une carrière internationale. Ensuite, on a le bassin méditerranéen. Donc là, on peut citer les artichauts, les asperges, le céleri, le fenouil, radis, laitue, carottes, même s'il y a d'autres espèces de carottes originaires d'Afghanistan. Les panais, évidemment, également, proches de la carotte. Les pois dont est originaire le petit pois. Et puis, ensuite, on a d'autres continents qui ont donné des légumes. Vous parliez tout à l'heure dans l'introduction des contreforts de l'Himalaya, d'où vient le concombre et le petit concombre qui n'est autre que le cornichon. Et puis, l'aubergine qui a été domestiquée en Asie du Sud-Est. Et puis, un peu en Afrique, quelques légumes, les gourdes, calebasses, les gombos qu'on voit apparaître sur nos étals, l'igname, plante très importante pour les Africains comme légumes tubercules.
Et voilà comment, quand on fait le tour du potager, on a déjà fait le tour du monde. Vous évoquiez l'aubergine. Rien que l'aubergine, l'histoire de ce légume est assez incroyable, avec d'innombrables variétés et des escales à n'en plus finir.
Oui, ça c'est vraiment une plante voyageuse, je trouve, l'aubergine. Alors, il y a plusieurs espèces d'aubergines, celles que l'on connaît, qu'on a sur nos étals ou dans nos potagers. C'est cette grosse aubergine violette à la peau bien, bien lisse et bien brillante. C'est donc Solanum melongena. Mais il y a aussi des espèces africaines qui n'ont pas vraiment beaucoup sorti d'Afrique. Mais alors, notre aubergine à nous, en réalité, les ancêtres sauvages de l'aubergine, c'est l'Afrique, plutôt l'Afrique de l'Est. C'est le Proche-Orient, Moyen-Orient, mais c'est pas là où ces espèces sauvages vont être cultivées pour la première fois, ça sera en Extrême-Orient, c'est-à-dire très très loin du berceau des espèces sauvages. Mmh. Et donc on va commencer à cultiver des aubergines du côté de l'Indonésie, de la Malaisie, et puis ensuite ces espèces cultivées, elles vont remonter aux confins de la Birmanie et de l'Inde, en Chine du Sud, et là vraiment on va les cultiver, les domestiquer de manière à avoir des aubergines de plus en plus grosses, parce qu'au départ c'est tout petit l'aubergine, et de là l'aubergine va arriver en Inde, et de là, les Arabes vont la découvrir en Inde, vont l'introduire dans le sud de l'Espagne. Au XVIe siècle, on va la connaître dans toute l'Europe, mais on va vraiment commencer à la manger dans un pays comme la France, que finalement assez récemment.
Alors quand on dit qu'ils se déplacent, ces légumes et notamment cette aubergine, sont évidemment des humains qui sont à la source de tous ces déplacements. Comment on a fait voyager aussi loin et pendant autant de temps ces légumes ?
Alors ce sont des humains, mais pas seulement d'ailleurs, puisqu'on a, si les graines sont légères, elles peuvent voyager par l'intermédiaire des oiseaux qui vont ingérer les fruits, par l'intermédiaire parfois de mammifères terrestres qui vont les transporter sur leur fourrure. Il y a les courants marins, il y a les vents, et puis il y a évidemment beaucoup les humains. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que finalement, je crois de manière assez universelle, les hommes, quand ils se dirigent vers un pays lointain, les découvreurs, les aventuriers, aussi parfois les colons, bien sûr, et les conquérants, eh bien, ils se disent que sur place, ils ne vont pas forcément trouver les aliments dont qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc, ils vont les emmener avec eux. Puis quand ils vont venir au pays, sur leur terre natale, ils vont à nouveau, à l'inverse, transporter les aliments, les légumes qu'ils ont trouvés intéressants. Et alors le problème, c'était surtout pour les voyages maritimes, parce que sur un navire, on est confronté à des conditions qui sont encore plus difficiles que lors d'un voyage terrestre.
On aura l'occasion d'y revenir, notamment quand on parlera de ce qui s'est passé du côté de l'Amérique latine, parce que là, effectivement, il a fallu traverser l'océan Atlantique pour faire revenir tous ces légumes. On évoquait la carotte. La carotte, d'où vient-elle ? Et puis, surprise, en lisant votre livre, pour nous, une carotte, même s'il y a quelques variétés différentes, mais la plus connue, les plus connues, elles sont oranges. Et finalement, une carotte orange, c'est assez récent. Hein. Au temps de Louis XIV, les écrits parlent de carottes blanches, de carottes rouges, de carottes jaunes, mais point de carottes oranges.
Oh oui, tout à fait. C'est, alors, d'où elles viennent d'abord ces carottes? En fait, il y a des variétés qui viennent alors à l'état sauvage, on trouve d'ailleurs encore la carotte sauvage hein, oui. dans nos chemins, donc elles viennent de l'Europe, elles viennent du bassin méditerranéen, mais elles sont cultivées. Alors, certaines carottes, les blanches et les jaunes, sont cultivées dans le bassin méditerranéen. Et vous faisiez référence aux carottes rouges et violettes qui, elles, viennent plutôt, ont été cultivées en Afghanistan à partir du Xe siècle. Et donc, ces carottes, elles ne sont pas oranges jusqu'au XVIe où on les voit apparaître dans les assiettes, mais aussi sur les natures mortes des peintres hollandais. Pourquoi ? Parce que les Hollandais sont les premiers à avoir sélectionné des carottes pour leur donner cette couleur orange en hommage à la famille régnante des Pays-Bas actuels, qui était la famille Orange, des Oranges Nassau. Donc on crée des carottes oranges, mais pas seulement un changement de couleur, également des carottes beaucoup plus grosses, beaucoup plus sucrées, beaucoup plus tendres, voilà, avec une peau moins coriace. Ouais. Mais il faut quand même, comme toujours, un petit peu de temps, et il faut attendre le 19e siècle pour que, en tout cas chez nous, les Français, les carottes oranges arrivent dans notre assiette. Donc elles ne l'ont pas toujours été, oranges.
Éric Berlouez, notre odyssée sur la planète des légumes ne fait que commencer. Nous allons partir pour l'Amérique dans un instant avec vous. Amérique dont la découverte a grandement enrichi nos cultures maraîchères. Le temps d'un bivouac dans le grand potager planétaire, cet après-midi sur France Inter.
C'est au Manhattan, fast-food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti, la gare, Dakar, Bamako, Mopti, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance, amour, solo, Gao, l'Algérie. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis?
Amadou et Mariam et Manu Chao sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Dans les Andes péruviennes, la vallée sacrée et ses neiges éternelles. Ici, des communautés quechua vivent encore comme leurs ancêtres, les Incas. Ils cultivent un tubercule bienfaiteur, la pomme de terre. Dans ces montagnes, elle répond au doux nom de papa.
Dans les temps anciens, mes ancêtres ne mangeaient que la papa des Andes. Il n'y avait rien d'autre. Et grâce à elle, ils vivaient jusqu'à plus de 100 ans. C'est le cas de mon père et de mon grand-père avant lui.
Notre grande odyssée des légumes nous conduit donc à présent dans les Andes, le berceau de la pomme de terre. Éric Berloez, la pomme de terre fait partie de ces nombreux légumes que nous devons au Nouveau Monde. Racontez-nous la découverte de cette pomme de terre par les Européens. Ça se passe quand et de quelle manière ?
Alors ça se passe au début du XVIe siècle, en 1532 pour être précis. On a une petite troupe de conquistadors espagnols qui sont emmenés par Francisco Pizarro. Ils pénètrent au Pérou et là ils découvrent que les Amérindiens consomment un tout petit tubercule de la taille d'une noix noirâtre et qu'ils en vivent et qu'ils survivent grâce à la consommation de ce tubercule qui pousse sur les hauteurs à 3000, 3500, voire 4000 mètres d'altitude. Et ils l'appellent, on l'a entendu, papa dans la langue quechua, donc la langue des Incas.
Mais alors, au moment où les Européens, grâce à ces conquistadors, découvrent cette pomme de terre, on est déjà dans une très longue histoire, c'est-à-dire que au Pérou, le légume en question a déjà connu quelques migrations.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, les premières pommes de terre, on sait, les archéologues nous disent qu'elles ont été cultivées il y a 9000 ans, mais pas du tout sur les hauts plateaux péruviens, boliviens. Au bord de la mer, et le climat est devenu tellement aride que petit à petit, la pomme de terre a dû prendre de la hauteur et qu'elle est arrivée sur les hauts plateaux. Donc effectivement, elle a eu toute une histoire et déjà un premier voyage du niveau de la mer jusqu'à ses altitudes élevées.
On est à 4000 mètres au bord du lac Titicaca et à ce moment-là, ce légume est vraiment central dans la nourriture des Péruviens. Oui. C'est vital, il lui voue même un culte. Il y a une déesse qui est attribué à la pomme de terre.
Absolument, on a complètement sacralisé cet aliment qui est l'aliment, la base vraiment de l'alimentation des Péruviens de l'époque et encore aujourd'hui. La pomme de terre, c'est le troisième aliment le plus consommé dans le monde après le blé et le riz. C'est dire la carrière internationale qu'a eu la pomme de terre qui était absolument fabuleuse.
Alors, elle l'a pas tout de suite eue. En Europe, les premiers paysans à cultiver les pommes de terre sont espagnols. Et au départ, elle est cultivée presque un peu comme un médicament. On lui prête de très nombreuses vertus médicinales à cette pomme de terre.
Oui, et ce que ne feront pas d'ailleurs les Français, qui l'accuseront plus tard de donner la lèpre, enfin tout tas de maladies. Mais c'est vrai qu'au départ, les paysans andalous, qui sont les premiers à cultiver la pomme de terre, lui trouvent beaucoup de vertus. Et là, il y a une histoire qui est assez amusante, c'est que lorsque le roi Philippe II, le roi d'Espagne, découvre la pomme de terre, la papa, il décide de l'envoyer en cadeau au pape de l'époque. Le pape souffre de malaria. Et comme la pomme de terre est réputée guérir toutes les maladies, être une véritable panacée, il va Mais simplement, là, il y a un petit problème diplomatique, c'est que on ne peut pas lui apporter la papa, car ce petit tubercule noirâtre, pas très joli, papa
Il porte le même
nom.
Nom
du pape.
Il porte le même nom que le pape, puisque papa, c'est pape en espagnol.
Exactement. Et donc, on va la renommer Patata. Et puis ailleurs, elle aura d'autres noms. Le voyage des légumes, c'est aussi un voyage des mots et des noms et des appellations.
C'est comme ça qu'elle va devenir la patata, c'est comme ça qu'elle va s'appeler finalement patate.
Qu'elle va s'appeler patate,
pour
exactement.
Ne pas vexer le pape.
Voilà.
Incroyable.
Et on va aussi l'appeler petite truffe ou truffe de terre. Cartoufle, dans le patois du Vivarais, de l'Ardèche, où elle va être assez tôt cultivée. Kartoffel, en allemand. Enfin, il y a vraiment, on peut suivre également les voyages au travers des différentes dénominations du légume.
Alors, si la patate est découverte au début du XVIe siècle par les Européens, elle ne sera pas adoptée tout de suite. 200 ans plus tard, elle est loin de faire l'unanimité à table.
À la soupe, Ça va se refroidir.
Oh, tu es bien pressé, toi.
Oh, encore des pommes de terre.
Et pas beaucoup. Ce sont les dernières. C'est tout ce qui reste des couffins que nous avait donné la section des arpents trouvés.
Oui, mais beaucoup, pas beaucoup, j'en ai assez.
Je refuse de me nourrir de racines. Je ne suis ni un cochon, ni un indigène.
Mais tu ignores donc, malheureux, que ce précieux tubercule peut être cuisiné de 20 façons différentes et toutes plus délicieuses les unes que les autres, qui nous fournit généreusement non seulement de la farine, des fécules, des médicaments, mais encore une excellente eau de vie. T'es le roi Louis XVI, lui-même, qui n'est pas un très bon politique, mais qui est un fin mangeur, eh bien, il se nourrit exclusivement de pommes de terre.
Guy Baumier, si tu les veux pas, donne-les-moi.
Non, je les mange par discipline révolutionnaire.
Extrait du film La Marseillaise de Jean Renoir, dont l'intrigue se déroule pendant la Révolution française. Nous sommes donc près de 200 ans après la découverte de la pomme de terre. Alors, Éric Berloez, est-ce fidèle à la réalité, cette méfiance des Français, en l'occurrence là c'était des Marseillais, à l'égard de la pomme de terre 200 ans après sa découverte?
Oui, alors c'est un tout petit peu plus nuancé que ça, effectivement. Ce dont on se rend compte, c'est que la pomme de terre va être adoptée assez rapidement dans les pays proches de la France, dans les pays voisins. Donc on a parlé de l'Espagne tout à l'heure, ce sera ensuite l'Italie, et ce sera la Suisse et l'Allemagne actuelles, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Et quelques régions françaises, mais pas toutes, l'Alsace, la Franche-Comté, l'Ardèche, qu'on appelle à l'époque le Vivarais. Ailleurs, la pomme de terre n'est pas totalement inconnue, mais finalement on ne la mange qu'en cas de famine. Et dès que ça va mieux, dès qu'on se remet à produire, à avoir du blé en quantité suffisante, on abandonne bien vite la pomme de terre. On continue quand même de la regarder avec soupçon. Et ça, c'est probablement lié d'abord au fait qu'elle n'est pas spécialement appétissante quand on la voit comme ça, elle ressemble pas à grand-chose que l'on connaît. Et puis, elle fait partie de cette famille botanique des Solanacées, dans laquelle on trouve les fameuses herbes à sorcières qui étaient utilisées au Moyen-Âge et encore après, datura, jusquiam, belladone, mandragore, etc. Et on s'en méfie, et c'est la même raison qui fera qu'on se méfiera de la tomate également.
Ah oui, de la tomate, parce que c'est la même famille.
C'est la même famille botanique.
Et alors, les petits fruits rouges de la tomate rappellent les petits fruits rouges de la belladone, qui sont des poisons
extrêmement toxique.
Donc on imagine qu'au moment où, parce que ce sont encore des conquistadors qui ramènent les tomates, où sont-ils allés chercher les tomates cette fois, les conquistadors?
Alors c'est toujours sur le continent américain, mais là on n'est pas au Pérou, on est en Mexique, au Mexique. Mais en fait, en réalité, là encore, il y a un voyage antérieur à la découverte des conquistadors, c'est-à-dire que les tomates, elles existaient à l'état sauvage dans les pays andins, Bolivie, Pérou, etc. Alors au bord de la mer, dans les vallées côtières.
Elles étaient toutes petites. Il faut imaginer des petites tomates cerises.
Exactement.
Au niveau de la taille.
De la taille d'une tomate cerise. Ouais. Et on pense, c'est une hypothèse qui a été faite par des spécialistes, que des oiseaux auraient transporté les graines de ces tomates sauvages depuis le Pérou et les pays limitrophes jusqu'au Mexique. Et ce seraient donc les paysans mexicains qui, voyant arriver dans leur champ une mauvaise herbe ressemblant au physalis, une espèce voisine qu'ils connaissaient, se sont dit, tiens, ces petits fruits, on peut peut-être en faire quelque chose. Ils en font une sauce tomate plutôt épaisse, plutôt sucrée, et ils décident de la cultiver. Donc la tomate n'est pas originaire du Mexique, mais ce sont les Mexicains qui, la découvrant, vont se mettre à la cultiver.
Ouais, la cultiver, sélectionner, commencer les travaux de transformation en la cultivant. Donc là, on est chez les Aztèques,
Exactement.
Est longtemps en arrière. Et arrivent là-dessus les conquistadors, même un peu avant la découverte de la pomme de terre.
Oui, un peu avant.
Et ils découvrent
Une bonne quinzaine d'années avant la découverte de la pomme de terre, c'est la découverte de la tomate, qui elle aussi va mettre du temps à être acceptée pour les raisons que j'indiquais, cette appartenance à la famille botanique des Solanacées. Et puis ces premières tomates, là encore, elles n'étaient pas grosses et rouges comme on les imagine aujourd'hui. D'ailleurs, les Italiens les appellent pomodori, pomodoro au singulier, la pomme d'or, ce qui laisse supposer que les premières tomates n'étaient pas rouges, plutôt jaune-orangées.
Ouais. Encore aujourd'hui, il y a des tomates de différentes couleurs. Aujourd'hui, la tomate est un des aliments les plus collectionnés, car il en existe de très nombreuses variétés. Un aperçu ici avec le chef Jean Bardet.
Alors, vous voyez, j'ai à peu près 250 variétés de tomates, elles ne sont pas toutes là, avec des formes, des saveurs, des couleurs différentes, avec des noms extraordinaires comme la Green Zebra, le Téton de Ménus, la Prune Noire, etc.
Là, celle-là, qu'est-ce que c'est, cette verte pour l'instant?
C'est une tomate qui reste verte toujours. voilà. C'est une verte comme la Green Zebra, qui ne rouge pas, qui ne rosit pas, disons. Mais elle est très mûre quand même, elle est molle. Nous avons également ici un arbre, vous voyez, qu'on n'a certainement pas vu nulle part. C'est un arbre à tomates.
Un tomatillo
du Mexique, qui donne des fruits rouges, vous voyez, oblongs, un peu comme des grosses prunes, Sainte-Catherine. Alors avec une chair qui est verte, avec une saveur de kiwi à l'intérieur, c'est extraordinaire.
Le chef cuisinier Jean Bardet, en l'an 2000 sur France Culture, qui présentait quelques exemples des 250 variétés de tomates de son potager. Il en existe davantage encore. Éric Birlouez, d'où viennent toutes ces variétés? Combien existait-il de sortes de tomates au moment où on les a découvertes chez les Aztèques?
C'est très difficile à dire. En tout cas, il en existait énormément, puisqu'on peut imaginer que chaque communauté paysanne va essayer d'acclimater l'espèce qu'elle se met à cultiver, l'acclimater à un terroir, à une exposition qui est particulière, un climat, une hygrométrie, une température, etc. Et donc, on avait énormément plus de variétés qu'on en trouve aujourd'hui sur nos étals, parce que bien sûr, aujourd'hui, on a privilégié les tomates les plus grosses, celles qui se conservent le mieux, qui résistent aux manipulations des consommateurs, etc. Ouais.
Mais aujourd'hui, quand on veut améliorer, transformer ces tomates, on va rechercher des espèces justement dans le berceau d'origine, au Mexique, ou est-ce qu'on travaille différemment?
Oui, bah, c'est tout l'intérêt, hein, effectivement, aujourd'hui, de faire des conservatoires de gènes, et on parlait tout à l'heure de la pomme de terre, et au Pérou, il y a effectivement une espèce de grande banque de gènes de pommes de terre qui est très très impressionnante. Là, ce sont des milliers de variétés cultivées et sauvages qui sont conservées parce qu'on se dit que peut-être un jour on aura besoin d'aller chercher un gène de protection d'une nouvelle maladie qui ravagerait nos champs de tomates.
Alors, la pomme de terre et la tomate, on l'a dit, hein, ce sont devenus un peu les stars mondiales, hein, les deux légumes les plus consommés dans le monde, mais elles ne doivent quand même pas faire oublier, hein, elles ne doivent pas être les légumes qui nous cachent tout le potager, parce que il y a bien d'autres légumes qui nous viennent du Nouveau Monde. Est-ce qu'on peut en citer quelques autres?
Oui, donc on a parlé de la pomme de terre et de la tomate, et bien il y a les haricots. Alors les haricots, ouais, alors légumes secs, dont je ne parle pas dans l'ouvrage parce que ce sont des légumes secs, mais je dis quand même quelques mots du haricot, ouais, vert, hein, qui est un haricot cueilli jeune, immature.
Ouais. C'est là où on voit que c'est toute une enquête et que c'est particulièrement difficile de remonter la piste de ces légumes. Il y a eu pendant longtemps une erreur sur la provenance du haricot.
Mais oui, exactement. En fait, on avait oublié pendant plusieurs siècles l'origine américaine des haricots. C'est-à-dire, on imaginait en Europe que les haricots, eh bien, étaient comme les lentilles, les autres légumineuses, un légume originaire du continent européen ou du Proche-Orient ou de l'Asie, mais en tout cas on l'imaginait pas venant d'outre-Atlantique. Et comme vous le dites, il y a eu une enquête, on pourrait dire un peu policière, ouais, de la part d'un entomologiste spécialiste des insectes, donc Jean-Henri Fabre, qui au début du XXe siècle, hein, seulement le XXe siècle, va faire une observation que d'autres avaient fait devant lui, mais lui, ça va particulièrement l'intriguer. Il va se rendre compte que certains insectes qu'il étudie, qu'on appelle des bruches, mais ouais, le nom plus courant, ce sont les charançons, eh bien, à certains moments, peuvent ravager, décimer des cultures de pois chiches, de pois, de lentilles, de fèves, etc., mais de légumineuses, donc, mais laisse absolument intactes les cultures de haricots. Donc déjà, il trouve ça un petit peu bizarre. Et puis, quelques temps après, il apprend que certaines cultures de haricots, elles, ont été dévorées par ces petits insectes, par ces bruches, mais pas les autres espèces que j'évoquais, lentilles, fèves, etc. Et là, on découvre que l'insecte qui a dévoré les haricots est un insecte inconnu en France, hein, plutôt est une espèce inconnue qui est une espèce américaine.
Ouais. Et donc là, c'est un peu par les prédateurs de en tout cas les parasites,
exactement,
de ces plantes qu'il a pu se dire...
Remonter la piste, ouais, jusqu'à l'origine, ouais, qui était le Nouveau Monde. Donc voyez, on peut oublier très vite, ouais, l'origine d'un légume pourtant très important.
Ouais, alors il y en a plein d'autres, hein, qui viennent du Nouveau Monde, les piments, les poivrons, les potirons, oui, la citrouille, les courges, tout ça, si on n'avait pas découvert l'Amérique, on n'en aurait pas dans nos potagers.
Absolument. Et puis, alors, des légumes qu'on ne connaît pas chez nous, mais qui sont extrêmement importants au niveau de l'alimentation mondiale. Je pense par exemple au manioc. Hein, le manioc, ouais, qui est une plante américaine, dont certaines espèces sont... Alors, il y a le manioc doux et le manioc amer. Et le manioc amer est extrêmement toxique. Et ouais, tout le génie des Indiens, des Amérindiens, a été de le détoxifier. Et pourquoi je parle du manioc? Parce que c'est aujourd'hui la plante la plus consommée en Afrique. Et qu'on va trouver ailleurs, d'ailleurs, sous les tropiques, mais qui a voyagé.
On en reparlera peut-être un peu plus tard, justement, de ce manioc. Juste une question sur la façon dont on a transporté ces légumes. Parce que là, pour le coup, il a fallu leur faire traverser l'océan Atlantique pour partir de l'Amérique latine, dont ils étaient issus, et arriver en Europe. Ça paraît bête à dire, mais à l'époque, ce sont des bateaux qui mettent plusieurs semaines, voire absolument, plusieurs mois, à traverser, oui, les océans. Comment on transporte ces plantes?
Eh bien, au début, on les transporte, je dirais, comme on peut. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, on estime qu'il y a à peu près 90% de ce qu'on a ramené, des plants, des tubercules, des graines qui sont plus en état de donner quelque chose. Alors, on va avoir vers les années 1750 un texte qui est assez amusant à lire parce qu'en fait, il est, je dirais qu'il est quasiment évident, d'un inspecteur général de la Marine royale qui s'appelle Duhamel du Monceau. Et Duhamel du Monceau explique bien que si on veut ramener des plantes, quelle que soit la forme d'ailleurs où on les ramène, il faut éviter de les mettre à fond de cale parce qu'il y a les rats, parce qu'il y a les insectes comme voilà les fameux charançons dont je parlais tout à l'heure à propos du haricot. Donc il faut les mettre, et puis il n'y a pas trop de lumière évidemment, il faut les mettre sur le pont, pas trop près du bord à cause des
embruns, des vagues, de l'eau salée qui pourrait les
protéger de la morsure du soleil, etc. Mmh. Et il va y avoir une innovation tout à fait étonnante. En 1830, c'est un botaniste anglais qui s'appelle Nathaniel Ward qui va créer ce que l'on appelle les caisses de Ward, c'est-à-dire comme des petites maisons que l'on, ouais, remplit de terre. Le toit est constitué de verre que l'on va protéger avec du grillage et donc les végétaux vont, mmh, saturer d'humidité l'air et ça va protéger et permettre le développement et la conservation, bien sûr, de ces végétaux.
Et après, une fois arrivés sur le sol européen, encore faudra-t-il les acclimater,
bien sûr.
Ces plantes, tout ça, c'est encore un long travail. Nous poursuivons notre enquête sur la piste des légumes avec notre invité Éric Birloez. Et dans un instant, nous allons notamment nous intéresser à des légumes dont nous sommes moins familiers, mais qui seront peut-être les stars de demain.
Comment si elle tient
siempre acaba bien. Todo tiene su
C'était Todo Tiene Sofine de Dom La Nena sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Les galettes, qui les fait?
C'est moi.
C'est vous qui les faites?
Oui, c'est moi. Alors, je prends mon temps, je suis là et puis je fais des galettes. La cassa, c'est un pain. C'était le pain des Caraïbes, des Indiens Caraïbes. Et on a toujours gardé la tradition. C'est la farine de manioc qu'on prend et puis on fait une sorte de galette, soit salée ou sucrée. Et on mange ça comme ça avec du lait, comme on veut, avec du jambon, du fromage.
Et quand les gens viennent, comment ils vous demandent à acheter de la galette de cassave entre eux?
Elles ne sont pas une cassave cavonne. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de cassave avonne.
Est-ce qu'ils savent les origines du manioc que sont les Amérindiens en général?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes. Parce que les gens pensent que c'est quelque chose qui a été introduit par disons, les esclaves.
Au moment de la colonisation.
Et pourtant, non. Ouais. C'était là avant. C'était là avant.
Un extrait de l'émission de Bouche à Oreille sur France Culture en 2003. Nous étions donc en Martinique où on utilise la farine de manioc pour faire la cassave, cette galette. Éric Birloez est avec nous, avec vous. Nous partons sur la piste des légumes cet après-midi. Et c'est intéressant ce que disait ce monsieur qui fait des galettes, Jules Ragan, c'est son nom. Beaucoup se trompent en Martinique sur l'origine du manioc. Vous nous l'avez dit, Éric Birloez, il vient d'Amérique latine, ce manioc.
Oui.
Mais dans l'esprit de beaucoup de gens maintenant, il est associé à l'Afrique et à la cuisine africaine.
Ah, mais complètement. Et j'étais il y a deux jours avec des étudiants africains du Togo et de la République démocratique du Congo qui n'en revenaient pas quand je leur disais que non, le manioc n'est pas originaire d'Afrique, mais originaire de l'Amazonie. Ça montre là encore la fortune qu'a connue ce tubercule loin de son berceau.
Il y a beaucoup de légumes qui ont là aussi transformé finalement la cuisine et la culture africaine. Bah, le manioc, on le cite, mais la patate douce, pareil, le piment, tout ça, ce sont des légumes qui viennent de l'Amérique latine et qui aujourd'hui font partie intégrante de la cuisine africaine, des cuisines africaines.
Oui, des cuisines africaines, et pas que africaines d'ailleurs, puisque si on prend l'exemple des piments, on les trouve, bon, qui sont des épices, autant que des légumes, mais qu'on va trouver sur tous les continents avec des forces différentes. Le piment d'Espelette en Europe, dans le Pays Basque, et puis le paprika qui est doux, et puis des piments extrêmement brûlants ailleurs.
Alors la patate douce, elle vient d'Amérique. Il y a quand même une énigme à son sujet. Elle a été cultivée très tôt sur des îles polynésienne, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage, et on ne sait pas bien expliquer la présence de patates douces dans ces îles.
Exactement, alors il y a plusieurs hypothèses. Soit on dit que ce sont des habitants du Pérou actuel qui seraient partis en pirogue jusque sur les îles de Polynésie et qui auraient emporté avec eux des patates douces, mais du coup on se demande pourquoi ils n'ont pas emporté également des haricots, du maïs, enfin d'autres aliments. Une autre hypothèse, c'est de dire qu'il y a eu des allers-retours, des populations qui sont parties de la Polynésie et qui sont allées sur les côtes américaines, donc avant Christophe
Colomb. Bien avant Christophe Colomb.
Et qui seraient revenus, mais bon, ça on n'en a pas vraiment de certitude scientifique. Et puis il y a eu des hypothèses de voyage au gré des courants ou par des oiseaux. Il y a un oiseau migrateur qui s'appelle le pluvier doré qui fait parfois la navette entre les côtes américaines et les îles de Polynésie.
Et la patate douce fait partie de ces légumes qui sont en train de gagner la France. C'est-à-dire que de plus en plus, on en voit sur nos étals. Est-ce qu'on cultive de la patate douce en France aujourd'hui, Éric Birloez?
Oui, parce qu'on a créé des variétés qui s'adaptaient finalement à nos climats tempérés. Et donc, c'est la patate douce, en fait, on l'a connaissait au cours des siècles précédents en France, mais elle était finalement tombée dans l'oubli. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été en partie réhabilitée par les marchands de certains fabricants de burgers qui ont servi leurs burgers avec des frites de patates douces, ce qui a populariser ce tubercule américain.
C'est ça. Ce sont beaucoup d'histoires de retour et de départ, ces légumes. Il y a comme ça pas mal de légumes démodés, mais qui ont eu leur heure de gloire, ou en tout cas qui étaient plus présents en France. Le rutabaga, le topinambour, ont eu leur heure de gloire dans notre pays. C'est moins le cas aujourd'hui.
Oui, alors les topinambours, c'était plutôt par défaut, comme le rutabaga d'ailleurs, puisque c'était les légumes de guerre. Quand l'occupant nazi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, réquisitionne les pommes de terre, eh bien, il ne reste que des topinambours et des rutabagas. C'est pour ça que les plus âgés de nos concitoyens ne veulent absolument pas entendre parler
de
ces légumes de famine, entre guillemets.
Le topinambour vient aussi
d'Amérique. Du Nord, du Canada, pour être précis.
Et alors, pourquoi ce nom de topinambour?
C'est une histoire amusante, en fait, parce que alors l'histoire, elle se passe au début du XVIIe, en 1613, lorsque la ville de Rouen s'apprête à fêter l'entrée du jeune roi Louis XIII. Et donc on va exhiber, comme on le faisait à l'époque, une tribu d'Indiens d'Amazonie qui s'appelle les Tupinambas. Et à peu près à la même époque est arrivée en provenance du Canada, les topinambours auxquels on donne pas ce nom, qu'on appelle les truffes du Canada, les pommes de Canada, etc. Et donc, il y a un marchand qui a cette idée de baptiser du nom de cette ethnie d'Amazonie Tupinambas, le topinambour, et donc du coup ça va avoir beaucoup de succès.
Ah oui, voilà, c'est ça. Donc ils ont
un coup de marketing.
Ils ont un faux air d'Amérindiens alors qu'en fait ils viennent du Canada. Est-ce que le processus d'intégration de nouveaux légumes dans notre alimentation, dans nos potagers, est toujours à l'œuvre? Autrement dit, si on refait cette émission dans 100 ans, est-ce que on s'émerveillera du succès de certains légumes qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui?
Oui, alors je voyais par exemple sur internet qu'il y a des jardiniers amateurs qui sont férus de ce genre de choses et qui essayent, ils y arrivent plus ou moins bien, ça dépend beaucoup des années, de cultiver par exemple des gombos qui sont, vous savez, ces petits légumes originaires d'Afrique, là, pour le coup. Et mais bon, le climat n'est peut-être, même s'il y a le réchauffement climatique, le climat n'est peut-être pas suffisamment encore chaud pour permettre cette culture, mais peut-être, au bout de quelques siècles de sélection, d'acclimatation, on arrivera à cultiver, et de changement de température, bien sûr, on arrivera à cultiver ces légumes.
Est-ce qu'il y a d'autres légumes? Par exemple, le krone du Japon, qui ne vient pas du Japon, hein, ce serait trop simple.
Ça serait trop simple.
Qui serait en train de faire son retour actuellement aussi?
Oui, c'est vrai qu'on le voit un petit peu sur les étals. Donc, c'est un légume qui est arrivé à la fin du 19e, en 1882, pour être précis. C'est un jardinier qui les récupère, ces krones du Japon, mais qui viennent de Chine, qui se présente sous la forme, donc c'est un tubercule, un rhizome, qui se présente sous la forme de, comme des petites chenilles, si vous voulez. Et donc, ils décident de les cultiver. Ça a beaucoup de succès, mais rapidement, les producteurs sont pas vraiment intéressés parce que ça se casse dans la terre, et puis ça envahit le champ les années suivantes. Donc, on l'oublie, puis aujourd'hui, on le redécouvre. Donc, il y a vraiment des allers-retours, comme ça, des périodes de succès, de mode. Ça retombe dans l'oubli, et puis ça peut revenir un jour.
Et dans cette histoire, est-ce qu'il y a des légumes que l'on a d'abord cultivés en Europe? Vous nous avez parlé du chou, par exemple, ou de la betterave, qui était originaire d'Europe et qui ont eu du succès dans les autres. Est-ce que nous aussi, on a participé finalement à ce grand potager mondial en donnant ces légumes sur d'autres terres?
Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que les endives, elles sont peut-être pas tellement diffusées en dehors de la France, de la Belgique, mais si on prend, l'exemple du chou, des betteraves, etc., on va les trouver aujourd'hui cultivées sur d'autres continents, là où les conditions, évidemment, le permettent.
Ouais, même si le succès est peut-être moins grand que la pomme de terre et la tomate.
Absolument.
On est un peu modeste là-dessus. Merci, Éric Birlet. Je rappelle le titre de votre livre « Petite et grande histoire des légumes » aux éditions Quae. Vous restez avec nous, Éric, dans un instant, on part faire un tour en ville avec le vidéaste Patrick Beau, qui va nous surprendre avec les découvertes insolites qu'il a faites dans les grandes villes comme Berlin, Londres, Tokyo ou même Paris.
Derrière une porte, sous un arbre, on a highway. Peu importe où tu te caches, je te retrouverai. Parti de rien, heure en chemin, larme à l'arrivée. Parti plaisir, boire tout le train. Il veut dériver, puis faire l'amour, rire après coup, se dire qu'après tout, ce qu'elle m'avait fait, ça je ne risquais pas de lui courir après tout. Derrière la porte où elle se cache, déjà s'en trouverait. Derrière la farce, les faibles cachent leurs absurdités. Qui disait bonsoir mon amour, koala en chérie, faisons un tour, texte désormais. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si elle m'avait jamais vu nu, comme si j'étais un inconnu. pourquoi elle écrit ce genre de truc, comme si elle m'avait jamais vu nu. Encore un été j'attends. Le soir venu, dire oui à tout. Lendemain, se sentir bien moins impliqué. Je suis sans nouvelles, je suis sous un arbre, je réponds ah ouais. Même ça s'est cassé, c'est l'ellipse éclipsée qu'ai-je imaginé. Celle qui disait bonsoir mon amour, koala en chef, faisons un tour, texte désormais. Pourquoi elle demande puisque je peux plus lâcher ma dose dans son. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si j'étais un inconnu, comme si elle m'avait jamais vu nu. Je jetterai sa brosse à dents.
C'était Coucou, François Enzi, Atlas Mountains, et merci à Muriel Pérez qui signe notre programmation musicale.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Et nous partons à présent pour une balade insolite dans les grandes villes du monde avec Patrick Beau. Bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous êtes auteur, vidéaste et les 600 000 abonnés de votre chaîne YouTube Axolot connaissent votre curiosité, votre goût pour les histoires insolites. Vous venez de publier Étrange escale, c'est le titre de votre ouvrage aux éditions Dunod. Ce livre est inspiré d'une série documentaire réalisée justement pour votre chaîne dans plusieurs grandes villes du monde avec pour but de nous montrer ces villes sous un angle méconnu. Alors vous nous emmenez à Prague, à Londres, à Rome, à New York, à Berlin, à Tokyo et même à Paris, mais à chaque fois en sortant du circuit touristique classique. C'est vraiment ça l'idée, Patrick Beau, vous vouliez nous surprendre.
Alors oui, en fait, c'est parti d'un voyage que j'ai fait avec ma compagne en 2014, donc la chaîne existait déjà, et au départ c'était juste un voyage à New York, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en profiter pour explorer les curiosités méconnues de la ville. Et c'est ce qui a donné naissance à ce concept. Et là, aujourd'hui, on en a une dizaine d'épisodes sur la chaîne, et c'est toujours un bonheur comme ça de redécouvrir des villes qu'on croit connaître.
Ouais, alors d'ailleurs, à New York, hein, parmi les petites bizarreries que vous avez notées, il y a le triangle de S. Vous nous racontez cette histoire très étonnante de ce qu'est le triangle de S.
Alors le triangle de S, c'est une curiosité à côté de laquelle des milliers de touristes passent chaque jour, je pense, hein, sans se douter que c'est la plus petite propriété privée de New York. Ouais. Donc à la base, il y avait un immeuble à l'endroit où se trouve ce fameux triangle, qui avait vraiment un triangle sur le trottoir. Et donc cet immeuble a été détruit dans les années 1910. Puisque la ville de New York voulait élargir l'avenue où se trouvait l'immeuble en question, et le propriétaire de cet immeuble n'a pas voulu céder. Mmh. Et puis finalement, l'immeuble a bien été détruit, et il a décidé donc de se rebeller à sa manière. Donc quand la ville a demandé à la famille de donner la minuscule parcelle qui restait pour l'espace public, ils ont refusé. Et donc ils ont posé une inscription comme ça sur le trottoir, qui précise que ce morceau de trottoir est une propriété privée et qu'elle n'est absolument pas réservée à l'usage public.
Mais c'est un tout petit trottoir, c'est un tout petit bout, un tout petit morceau de trottoir qui fait à peine quelques centimètres carrés, mais qui est la propriété.
On peut tenir debout dessus, pieds joints. Ouais. Et aujourd'hui, elle se trouve devant une boutique de cigares qu'il a rachetée. Mmh. Et voilà, c'est devenu
une curiosité,
de fragment comme ça de l'histoire de la ville.
Alors des curiosités, il y en a comme ça aussi énormément à Londres. Hein, quelques exemples de bizarreries. C'est vraiment une ville toute trouvée justement pour les bizarreries. Il y a par exemple une boutique que l'on croirait tout droit sortie de Harry Potter, une boutique pour les monstres que l'on trouve à Londres.
Oui, absolument. C'est le Hoxton Street Monster Supplies. Donc c'est une boutique qui est très très étonnante, parce que quand on rentre dedans, il y a des tas de bizarreries en conserve, des yeux en bocaux, de la confiture de morve, ce genre de choses.
Ouais, ouais.
Et donc voilà, on est tout à fait dans l'esprit Harry Potter.
Ouais. Des terreurs en conserve, des chats invisibles qui ronronnent dans leur panier.
Tout à fait. Ouais.
Pourquoi on vend tout ça? Ça sert à qui? C'est fait dans quel cadre cette histoire?
Alors, ce qui est génial, c'est que cette boutique est en fait une couverture pour une association qui reverse tous les bénéfices obtenus pour aider les enfants à écrire. C'est une association qui permet aux enfants de développer leur imagination. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs villes du monde, notamment à New York, où c'est une boutique de super-héros, en fait. C'est le même principe. On peut acheter des super pouvoirs, ce genre de choses, et l'argent est reversé à cet asso qui permet aux enfants de développer leur talent d'écriture.
Toujours à Londres, le Long Player. Alors là, c'est assez incroyable ce que vous nous montrez. C'est un morceau, un concert finalement, qui se joue déjà depuis 20 ans, mais qui est loin d'être terminé.
Voilà, c'est un concert qui a commencé en l'an 2000, et si tout se passe comme prévu, donc ça durera jusqu'aux derniers instants de 2999, donc un concert qui doit durer 1000 ans, et on peut écouter donc ce concert aujourd'hui en direct dans un phare à Londres, le phare de Trinity Bell Wharf, où donc un ordinateur joue le morceau, mais il y a des bols tibétains, qui permettent de le jouer à la main si jamais, dans le futur, la technologie s'effondrait, les humains pourraient continuer à jouer le morceau jusqu'en l'an 3000. Donc.
On entend derrière nous un extrait de ce concert qu'on peut écouter d'ailleurs sur Internet, le Long Player. On en a enregistré un petit bout un peu avant l'émission.
Ouais. Ben dites-vous que ce qu'on entend là, c'est un passage totalement inédit depuis 20 ans, puisque le morceau ne se répétera jamais deux fois de la même manière. Il y a un algorithme qui fait qu'il y aura toujours d'infimes variations pendant 1000 ans.
C'est une façon d'interroger aussi un petit peu l'avenir de notre société. Est-ce que l'on deviendra dans 1000 ans si ce morceau perdurera? Allez, on va faire un tour à Berlin à présent sur une montagne au nom un peu terrifiant, la montagne du diable.
Oui, alors c'est une montagne artificielle, une colline artificielle, comme il y en a beaucoup à Berlin d'ailleurs, qui s'appelle le Teufelsberg. Et donc cette montagne a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été créée avec les débris de la ville, tout simplement, puisque Berlin a été bombardée abondamment, et donc il y avait des débris de partout, et on a créé des collines, et le Teufelsberg, c'est la plus grande de toutes, elle fait 120 mètres de haut, et ce qui est incroyable, c'est ce qu'elle renferme, puisqu'il y a une école militaire nazie qui se trouve à l'intérieur de cette colline, et les alliés qui n'avaient pas réussi à détruire cette école, qui était très solide, ont décidé de l'ensevelir sous les débris. Donc sous la montagne qui est entourée de forêts, il y a une école nazie, ce qui est quand même une espèce de truc façon Indiana Jones, et sur la colline, il y a les restes d'une station d'écoute, une station espion, qui était utilisée pendant la guerre froide pour écouter donc toutes les émissions qui venaient du bloc soviétique. Et aujourd'hui, tout ça est abandonné. On peut voir encore les tours avec les radars. Et c'est les artistes qui se sont emparés du lieu. Donc, une espèce de galerie à ciel ouvert avec des graffitis géants sur tous les murs.
À Rome, vous nous racontez une histoire au cœur de la ville de Rome de chats qui sont devenus, alors qu'ils sont très bien là, mais qui sont très nombreux aussi sur des vestiges romains, des vestiges antiques, 300 chats qui sont là et qui sont devenus intouchables.
Absolument, parce que les chats à Rome font partie du patrimoine de la ville, donc c'est un décret municipal qui a été adopté en 2001, donc les chats romains font partie du patrimoine bioculturel de la ville, donc on peut pas toucher les chats, on peut pas leur faire de mal, on peut pas les virer de la ville, ils font vraiment partie du patrimoine, et ce sanctuaire des chats, alors il y en a plusieurs à Rome, mais celui-là c'est le plus vaste, et il se trouve donc sur les ruines de la curie de Pompée, qui est le lieu où Jules César a été assassiné. Donc il y a aussi une portée historique à ce lieu. Et donc voilà, il y a des centaines de chats qui y vivent et qui sont nourris par une association locale.
Et vous arrivez, alors là, on n'a pas le temps de l'évoquer, mais vous arrivez quand même à nous surprendre, et ça c'est un tour de force avec Paris, hein, en nous montrant un Paris méconnu. C'est un défi plus ambitieux, parce que évidemment, à des lecteurs français, on connaît cette ville, mais bon, vous nous parlez du rocher de la sorcière, d'une chambre ultra silencieuse à l'IRCAM, d'un souterrain sous l'Opéra Garnier. Tout ça est à découvrir dans votre ouvrage. Je rappelle le titre de votre livre, Patrick Beau, Étrange escale, aux éditions Duno. On peut aussi, bien sûr, jeter un œil à votre chaîne YouTube Axolot. Un grand merci à vous, Patrick Beau. Pour réécouter cette émission et les précédents épisodes, rendez-vous sur franceinter.fr, où vous pouvez aussi nous laisser un message. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, eh bien, vous avez rendez-vous avec Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.